Alors, rentrons à vivre dans le sujet de façon vive et directe. Donc, on l'a vu depuis hier, le sujet qui nous réunit est d'une actualité en effet brûlante. Tu m'as ôté le mot de la bouche. Partout, les libertés de créer, de diffuser et de penser sont confrontées à des formes multiples de remise en cause. Certaines sont visibles, censure, pression politique, déprogrammation, attaque contre des artistes ou des œuvres. D'autres sont plus silencieuses. Restrictions budgétaires, fragilisation des structures de production, de diffusion, précarisation des équipes, autocensure ou encore affaiblissement non progressif des conditions même de la création. Ce que nous souhaitons donc saisir et analyser donc au cours des deux journées, donc celle d'hier et celle d'aujourd'hui, c'est précisément cette attaque systémique contre un écosystème culturel. Un écosystème fragilisé à différents donc, niveaux, de manière directe ou indirecte, visible ou invisible, dans un contexte de profonde recomposition de ce qu'on pourrait appeler un nouvel ordre culturel mondial, qui met à l'épreuve les principes mêmes de la démocratie et les libertés fondamentales de créer, d'imaginer et de penser. Ces questions concernent tout particulièrement le service public des arts et de la culture. En effet, depuis de nombreux mois, les inquiétudes exprimées par les professionnels sont fortes. Donc les syndicats, nous le verrons avec le Syndéac cet après-midi, appellent notamment à un moratoire sur les coupes budgétaires et un véritable plan de refinancement du secteur. On a eu également récemment la lettre du HOF, un appel au futur candidat de l'élection présidentielle pour prendre en compte la situation alarmante du secteur des arts vivants. Mais au-delà des chiffres et puis de toute cette actualité, tous les articles, je le disais encore hier à Alice, on a l'impression qu'il y a une accélération véritablement des alarmes partout sur le territoire, et bien c'est bien la capacité de production et de diffusion qui est aujourd'hui menacée. Celle des théâtres, des festivals, des lieux intermédiaires, des compagnies, des collectifs, autrement dit tout ce qui permet aux œuvres d'exister, de circuler et de rencontrer les publics. Alors, nous sommes dans le contexte du Festival d'Avignon et je tenais à souligner que voilà, les historiens des festivals ont largement montré combien ce modèle, développé en France depuis le 19e siècle, constitue un dispositif essentiel de notre politique culturelle. Les festivals permettent en effet une large diffusion des œuvres, une diversité des formats, un espace de rencontre entre création et public, mais aussi une dynamique économique et territoriale. Enfin, voilà. Les arts vivants ne produisent pas que du bien-être, ils sont une force économique. Ils participent aux retombées touristiques, à la vitalité démocratique et au rayonnement culturel de la France, pas seulement en France, mais aussi en Europe et à l'international, et c'est aussi un point important à souligner. Ils sont à ce titre donc un véritable outil de politique publique qu'il faut évidemment préserver coûte que coûte. Face à ces enjeux, la responsabilité est bien collective, élus, professionnels, chercheurs, syndicats, associations, artistes, entreprises, étudiants, citoyens, chacun a un rôle à jouer pour défendre les conditions de la création et la liberté de penser avec son corps, sa plume, son pinceau, sa caméra, sa voix ou ses gestes. Défendre la création, ce n'est pas défendre un secteur parmi d'autres. C'est défendre une capacité, je pense que vraiment c'est important, une capacité démocratique essentielle, celle de produire des imaginaires, du débat, de la critique et des formes nouvelles de compréhension du monde. Donc aujourd'hui, nous nous plaçons davantage du côté des métiers, du côté des professionnels, en nous intéressant plus particulièrement au secteur de la danse, du cirque et du théâtre. Nous chercherons à rendre compte de la diversité des empêchements, des entraves et des formes de censure qui affectent depuis longtemps mais avec une accélération préoccupante, les conditions d'exercice de ces professions. Donc nous formons le vœu, l'équipe Art Vivant est ici réunie, donc Pédidon, Stéphanie Long, Alice Rodelet et Lise Vigier, que je remercie vivement d'avoir donc co-construit ces journées. Nous formons le vœu que ces journées soient donc un temps d'échange exigeant, de dialogue entre disciplines, entre institutions, entre professions, mais aussi un moment de réflexion collective sur ce que signifie aujourd'hui défendre la liberté de créer. Donc voilà, je remercie également vivement le PEP Ricard et Solveig pour sa vision d'une recherche dynamique. Et je cède la parole maintenant à Bérénice.
Et c'est bien, on a fait l'inverse de la table. table ronde oui. de hier, mais oui. Luc, on aurait dû le faire venir.
Voilà. Donc, voilà, c'était un petit mot d'introduction pour, ce, merci, voilà, pour rentrer dans la journée. Et donc, voilà, j'ai le plaisir de vous enfin, représenter, puisque Bérénice a déjà participé à la table ronde hier. Donc, Bérénice Alidi est professeure en esthétique et politique des arts vivants à l'Université Lumière Lyon 2. Et donc propose de une communication, une présentation, un propos, corps, genre, sexualité au théâtre, d'Avignon 2005 à aujourd'hui, vers un nouveau paradigme des controverses esthétiques et politiques.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélène, et merci à toute l'équipe d'organisation de ces journées qui sont importantes. On a commencé à le mesurer. Alors c'est vrai que l'exercice en ce moment n'est pas facile parce que à chaque fois qu'on parle, on se demande à quel point on s'auto, voilà, on s'auto-encourage ou on s'auto-déprime. Je vais rester un peu sur ce mot de nouveau. Et en plus, ça va être un petit peu renouvelé par le fait que je vous remercie et en même temps où je vous remercie parce que ça m'a mise un peu au travail. Ça m'a mise un peu au travail en fait d'articuler ce qui est un questionnement qui m'accompagne maintenant. Enfin, qui est vraiment au centre de mes recherches, j'ai déjà dit hier, à savoir, après avoir travaillé sur les rapports de domination plutôt avec une perspective de classe sociale, transposée au spectacle vivant, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur la question, les questions de genre, avec une entrée par les violences sexistes et sexuelles, et sur les questions de discrimination raciale. Et le constat qu'on a commencé déjà un peu à poser hier, c'est que l'articulation entre ces enjeux-là et les enjeux de liberté de création n'est pas fluide, on va le dire comme ça. Voilà, donc ça m'a mis au travail je vais vous présenter l'état de ma réflexion et je vais essayer de... qu'est-ce qui fait que c'est complexe? Sur les questions de genre, de sexualité, de représentation des corps, de représentation de la nudité, on associe tout ce qui va relever de l'interdit et tout ce qui va être qualifié de censure à une position idéologique qui relève d'un moralisme conservateur. Donc, en conséquence, assez logiquement, le terme n'a pas hyper bonne presse. Et la démarche même de venir interdire, réguler, n'a pas bonne presse non plus. Et d'autant moins en ce moment où, de fait, il y a une offensive réactionnaire qui existe bel et bien et qui instrumentalise bel et bien la cause des femmes et des enfants pour favoriser globalement le développement de politiques sécuritaires, que ce soit des politiques sécuritaires en matière pénale, pour venir dire que les seuls agresseurs, ce seraient des hommes racisés, étrangers, etc. Pour développer une politique, en tout cas pour justifier une politique qui assume de plus en plus des formes de racisme décomplexé. Et encore, c'est aussi instrumentalisé clairement dans un contexte d'attaque à la culture subventionnée. Donc, l'importance de discerner en fait ce terme de censure et de discerner différents types de questionnements distincts. Et je redis aussi que sur ces sujets-là, moi je parle à la fois en tant que spécialiste des questions de rapport de pouvoir dans les représentations culturelles et dans le champ socio-professionnel du spectacle vivant, mais que je travaille aussi depuis un point de vue de chercheuse et de militante qui travaille depuis 6 ans sur un projet qui s'appelle RIPER, violence sexiste et sexuelle, changer les représentations, repenser les prises en charge. Il y a plein de trucs chelous de réverbération du micro. Non ? Ok. On n'est pas à l'entendre. Ce projet donc, qui s'appelle Changer les représentations, repenser les prises en charge des violences sexistes et sexuelles m'a amené à me déterritorialiser beaucoup, hein, puisqu'il y a un volet sur la présentation culturelle, mais on a travaillé avec des juristes, on a travaillé avec des experts aussi de la prise en charge des victimes et de la prise en charge des auteurs de violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, ça m'a amené à, j'anticipe un peu la fin de mon propos, mais ça m'a amené à questionner en fait cette idée qu'il y aurait un intérêt supérieur de l'art. Aux États-Unis, on utilise encore un passage de l'intérêt supérieur de l'art à People First, Art Second. Voilà. Donc ça, ça pourrait être un peu un changement de paradigme, ou en tout cas, ça vient dire, et ça va être aussi ça mon angle d'attaque, qu'il y a un peu un conflit dans le cadrage des réflexions sur ces questions. Et quand la proposition m'a été faite d'un propos inaugural, je me suis dit, bon, comme on est à Avignon, bah, peut-être revenons sur ce qui a été la dernière grande querelle en la matière au Festival d'Avignon sur ces questions de représentation du corps, de la sexualité, de la violence, qui est donc l'édition 2005 du Festival d'Avignon, dont beaucoup d'entre vous se souviennent, j'imagine. Et pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé depuis, voilà, entre ce moment-là et maintenant. Et il me semble que la comparaison, elle amène à l'idée qu'il y a un double tournant. D'un côté, un tournant qui est amené parmi tout, et un tournant qui se joue au sein du champ culturel. Et de l'autre, bah, donc cette montée hein, des idées d'extrême droite et des méthodes de l'extrême droite aussi, un contexte de bataille culturelle qui va donc instrumentaliser les questions de genre, avec cette fameuse idée de la théorie du genre notamment, et qui va aussi instrumentaliser dans le champ culturel. Donc, le premier cadrage, c'est l'idée que donc représenter le sexe, représenter la nudité, ça serait forcément du côté de la liberté sexuelle d'une part et de la liberté de création d'autre part. C'est un cadrage qui a longtemps été le cadrage principal dans le champ intellectuel. C'est un cadrage qui s'est maintenu depuis, mais la perception de l'orientation idéologique de ce cadrage a changé, notamment avec, en 2018, la fameuse, ce qu'on a appelé hein, la tribune de l'homme, tribune sur la liberté d'importuner, qui venait défendre un supposé art de la séduction à la française et qui était opposé hein, donc à l'idée qu'il y avait une approche pudibonde de la sexualité qui viendrait des États-Unis et de leur ligue de vertu puritaine. Et à ce moment-là, on a vu apparaître hein, ce conflit dans le cadrage avec, d'une part, la parution d'un livre de Valérie Rivière qui s'appelle « Culture du viol à la française », donc qui vient vraiment questionner cette imagerie de l'art de la séduction à la française et ce que ce cadrage-là vient masquer, en fait, en termes de licitation de violences sexuelles et de masquage de rapports de force liés aux rapports sociaux de sexe dans la société. Et puis, également, avec la prise de parole de Laure Murat, qui a qualifié hein, la tribune de Neuve comme étant la première réaction française contre le mouvement MeToo, et qui analysait cette tribune hein, comme une arme de backlash intellectuel contre les mouvements féministes. Alors, ce conflit de cadrage, on le retrouve aussi dans les débats esthétiques. Alors, je vais commencer par dire, à mon sens, d'où ça vient. En fait, c'est associé à une conception de l'art qui continue à être majoritairement enseignée dans les écoles d'art, à l'université, même si elle est de plus en plus questionnée dans ces espaces-là, et qui est une conception qui date de notre modernité esthétique, telle qu'elle s'est instaurée à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui vient faire de la transgression une qualité à la fois esthétique et politique. Ça repose donc sur une conception romantique de l'art qui arrime la valeur esthétique de l'œuvre et l'évaluation du talent de l'artiste qui crée l'œuvre au fait qu'il se place dans un rapport dissonant avec la vie sociale ordinaire et donc aussi avec les lois sociales ordinaires. Donc la transgression de ces normes sociales, elle constitue une valeur en soi. On va retrouver cette idée chez Baudelaire, alors à la fois le Baudelaire poète que tout le monde connaît, mais aussi le Baudelaire critique d'art qu'on a un petit peu oublié, alors qu'il a pourtant eu une influence très très importante dans l'histoire de l'art. Et donc c'est notamment dans ses écrits sur l'art. Et donc ça, ça a été analysé notamment par le sociologue et l'économiste Lipatowski, dans le nouvel esprit du capitalisme à la fin des années 90, donc avec cette idée qu'il y aurait une critique artiste du capitalisme, donc il distingue en fait une critique sociale du capitalisme qui va critiquer l'exploitation, qui va critiquer le fait qu'il y a une injustice, donc parce qu'ils analysent comment le capitalisme arrive à se perpétuer malgré toutes ces critiques. Et donc, du coup, ils font aussi une analyse un peu historique des différentes critiques du capitalisme, sachant que, en fait, le capitalisme, comme tous les systèmes de domination, il se perpétue parce qu'il arrive à intégrer ou à contrer les critiques qui lui sont faites. D'où l'intérêt de s'intéresser aux critiques et à comment elles ont pu être retournées. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il s'intéresse notamment à la critique artiste du capitalisme, qui ne va pas cibler l'exploitation, qui ne va pas cibler donc en fait le capitalisme en tant que tel, mais le mode de vie associé au capitalisme, qui était à l'époque la bourgeoisie dont l'avènement triomphant commençait. Et donc la critique artiste du capitalisme, elle va valoriser la figure du poète maudit comme refusant à la fois la production industrielle de biens en série, l'œuvre d'art, qu'est-ce que c'est si ce n'est l'opposé absolu de ça, mais va refuser aussi le mode de vie donc conformiste, bourgeois, associé à ce capitalisme naissant. Et les discours sur l'art qui vont s'élaborer à partir de là, et notamment tout le discours sur l'avant-garde, va reprendre un peu cette idée d'une distance entre les artistes et le reste des citoyens et citoyennes, cette idée qui serait en avance, qui serait un peu décalée, c'est ce qu'on retrouve là chez le Baudelaire poète, hein, dans l'Albatros. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est bien exilé sur le sol au milieu des huées, c'est ça, le géant l'empêche de marcher. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose de hors norme, à la fois dans la figure de l'artiste et dans les œuvres qu'il produit. Et il y a aussi l'idée qu'il faut se confronter, que ce qui va faire la mesure de la grandeur esthétique, c'est le fait de se confronter à l'extraordinaire, à ce qui n'est pas de l'ordre de l'ordinaire. Donc ça peut être les grandes forces cosmiques, mais c'est aussi les forces obscures. C'est aussi ce qu'il y a d'impénétrable, de plus retors, de plus chaotique dans notre psyché, dans nos inconscients et dans notre expérience de la vie. Et alors, vous me direz tout ça, c'est super, mais c'est assez loin. Alors, en fait, toute cette rhétorique-là, moi j'ai travaillé énormément hein, sur du coup pas mal d'affaires de violences sexistes et sexuelles, c'est une rhétorique, notamment quand les auteurs de violences sont aussi des auteurs d'œuvres, c'est une rhétorique qu'on a énormément retrouvée. En fait, cette idée, elle a eu le mérite dans certaines affaires d'être totalement explicitée, c'est particulièrement l'affaire Baudrech / Jaco et Doyon qui a permis de le montrer. Et notamment, je ne sais pas si vous aviez vu hein, ces extraits, alors en plus il y avait un côté au carré, c'était Benoît Jaco qui était interviewé par Gérard Miller, et qui explique très librement et de façon très explicite hein, qu'il savait ce qu'il faisait, il savait que c'était illégal d'accorder un rapport sexuel et une relation avec une mineure, et que précisément c'était ça qu'il trouvait excitant, mais aussi que c'était ça qui asseyait son pouvoir. Auprès des autres, c'était le fait que tout le monde savait et qu'il y avait ce frisson de transgression qui fascinait et qui légitimait le fait qu'il conserve cette position de pouvoir. Alors, je vous invite vraiment à aller écouter cet entretien parce qu'il a le mérite d'être extrêmement clair. C'est rare d'avoir une parole aussi claire et décomplexée, ce qui dit aussi bien sûr un immense sentiment d'impunité. Et ce sentiment d'impunité, pour les artistes, il est vraiment redoublé aussi par le fait qu'il y a parce qu'il y a la question de l'impunité pénale, mais il y a la question aussi de l'impunité sociale. Et en fait, c'est à cet endroit-là qu'il faut réfléchir et travailler. Hier, on distinguait les censures légales et puis les censures sociales. Bah, il y a aussi la question de l'impunité pénale et de l'impunité sociale. Et puis, donc aussi, bien sûr, la question de l'articulation entre les questions de liberté et les questions de responsabilité aussi. Donc, cette conception de l'art, elle exerce toujours une influence dans le cadrage des controverses esthétiques. Donc, l'idée et ça a amené plus récemment à l'idée qu'il y aurait donc d'un côté la défense de l'avant-garde esthétique, qui aurait une vertu démocratique en tant que telle, et de l'autre, l'idée qu'il y aurait une alliance objective entre les forces conservatrices et, plus incongru, mais il y a l'idée qu'il y aurait cette alliance objective, avec donc les mouvements racistes, les mouvements féministes, qui seraient un peu de nouvelles ligues de vertu. Donc je l'ai évoqué rapidement hier, c'est la rhétorique qu'on trouve dans la tribune pour Échille en 2019, donc qui porte pas sur, sur la question des VSS, mais sur les questions de discrimination raciale, mais avec la même ligne de défense, hein, donc cette idée qu'il y aurait désormais donc, une alliance des censures entre l'extrême droite et puis la gauche woke. C'est la même rhétorique qui est utilisée par Wajdi Mouawad en 2021, dans sa lettre ouverte, qui est en fait une lettre de soutien à sa propre programmation, ayant été attaquée parce que la même année, il y avait à la fois le retour de Bertrand Cantat, la seconde tentative de retour de Bertrand Cantat, et également Jean-Pierre Barrault. Et donc c'est un texte qui s'appelle « Je refuse de me substituer à la justice ». Là aussi, je vous renvoie à cette lecture, je ne vais pas en dire des citations. Mais non, on retrouve hein, cette même idée qu'il y aurait de la part des mouvements antiracistes, des mouvements féministes, un retour aux outils, alors à la fois un retour aux outils de la censure et un retour aussi, une demande de retour aux règles des bienséances. Donc de retour à des formes de conservatisme esthétique. Alors, en deux mots, c'est quoi les bienséances? Ça nous amène quand même à se poser cette question-là. Donc, on rappelle que c'est une règle esthétique qui découlait de normes sociales et juridiques qui datent du XVIIe siècle. Donc là, je m'appuie sur je ne suis pas du tout spécialiste du XVIIe siècle, hein, je le dis tout de suite. Donc, je m'appuie notamment sur les travaux de ma collègue Céline Candiard. Et donc, ces règles, c'est cette idée qu'il ne faut pas choquer le public, qu'il ne faut pas mettre sur scène des choses susceptibles de choquer le public. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est au nom de la sensibilité supposée des publics, et notamment évidemment féminin, qu'il faut changer ce qui est représenté, l'enjeu étant à la fois de préserver l'innocence de ce public et aussi de participer à son éducation morale, à la fois de ne pas le corrompre, mais aussi l'éduquer. Et donc, ça atteint évidemment les actes représentés, concernant la sexualité et concernant la violence aussi. Mais ça a quand même beaucoup d'appui. Par exemple, entre la première et la deuxième moitié du XVIIe siècle, on ne va plus dire une épée, mais on va dire un fer. Donc on va, et donc là, on retrouve hein, des stratégies esthétiques qui, de fait, existent aussi en contexte autoritaire. J'ai aussi travaillé sur le Chili et sur les théâtres pendant et après la dictature dans le pôle sud, ces esthétiques de la ruse, du détournement, c'est effectivement des esthétiques qu'on trouve en toute logique hein, quand il n'est plus possible de dire explicitement. C'est aussi d'ailleurs, et c'est là où on voit que c'est des outils qui peuvent être maniés, quel que soit ce qu'on cherche à cacher, et quel que soit aussi ce qu'on pense de ce qu'on cherche à cacher, c'est aussi les mêmes outils esthétiques qu'on va trouver aujourd'hui chez Dieudonné. Parce que parmi les rares paroles interdites aujourd'hui, il y a les paroles antisémites, et donc du coup, tout cet art de l'esquive, du détournement, de l'euphémisation, de la transposition, ça fait partie voilà, de cette ruse esthétique qui est amenée donc, par les règles des bienséances. Donc ce qu'on voit, je ne développerai pas plus, mais ce qui est intéressant, c'est que qui, au XVIIe siècle, va contrer ces règles des bienséances? Les mouvements libertins. Et qui sont des mouvements de libres penseurs, c'est pas du tout le libertinage au sens courant où on l'entend aujourd'hui, hein. C'est des libres penseurs qui vont contester le fait d'avoir des règles sociales et des normes sociales uniquement fondées sur la tradition, l'église, voire religieux, et en fait un conservatisme. Et donc, la sexualité, les représentations de violence dans la sexualité, l'association sexualité et violence, donc à la fois, pas simplement le caractère explicite, mais aussi l'association à des choses qui ne sont pas bienséantes, c'est-à-dire, par exemple, représenter des formes de violence sexuelle, c'est ce qu'on trouve chez le marquis de Sade, hein, par exemple, où il y a énormément de représentations de violence sexuelle qui vont être analysées comme des manifestations de liberté. Et donc, entre la conception romantique de l'art et ce... Vous direz, c'est très très loin tout ça, cette XVIIe siècle, XIXe siècle, n'empêche qu'on en hérite encore aujourd'hui. Et que ces deux strates-là cumulées, comme on n'a pas fait un peu un travail de défrichage, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui par rapport à ce cadrage-là, là, ça reste. Ça reste, par exemple, au Festival d'Avignon 2005, très très clairement. En quelques mots, donc c'était une des premières éditions du jour de direction Archambault-Brugier, qui était l'artiste associé Yann Fabre. À l'époque, on ne savait pas ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne l'associait pas à No Sex, No Solo, il n'avait pas été condamné pour des faits de harcèlement sexuel et harcèlement moral, ce qu'il a été en 2022, au nom, je le dis rapidement, de la loi bien-être, qui agrège violence, harcèlement moral et sexuel au travail. Et donc, ce qui fait polémique en 2005, c'est pas du tout ce sujet-là. C'est pas le sujet des conditions de travail ou de violence au travail. C'est le sujet des œuvres et de leur représentation du corps, de la violence et de la sexualité. Donc, dans les spectacles qui ont fait polémique, il y a Histoire des larmes et Je suis sang de femmes. Il y a aussi Anéanti de Sarah Kane, mis en scène par Ostermeyer. Il y a aussi Une belle enfant blonde de Gisèle Vienne, qui travaille à partir de l'œuvre de Denise Cooper. Donc, je vous donne juste quelques citations d'articles de l'époque. Donc, le premier cadrage de la controverse, c'est, donc en lien avec cette défense de la ligne de programmation, c'est qu'il y aurait un différent entre des artistes qui incarnent une avant-garde esthétique et des publics conservateurs. Et puis vient un deuxième cadrage, un peu plus sophistiqué, qui vient qualifier la querelle d'Avignon de querelle esthétique, donc entre artistes et entre lignées d'artistes, et donc entre d'un côté la lignée du théâtre populaire et de l'autre la lignée du théâtre d'art et du théâtre d'avant-garde. Donc c'est le titre d'un petit livre de Carole Talon-Hugon de l'époque, hein, qui s'appelle le conflit des héritages. Donc pour vous donner un peu un florilège à la fois de la virulence du ton et de la teneur du fond de l'opposition, pour ceux qui soutiennent la programmation, le scandale c'est ceux qui crient au scandale. Donc par exemple, feu mon collègue Georges Vanu qui dans le cas Avignon dit « J'ai été scandalisé par certains textes de gens de la profession où je reconnaissais les intonations des procès de Moscou ». Et donc cette idée, hein, donc il y a une attaque politique, et donc les détracteurs de la programmation, ils seraient totalitaires. Donc ça, on le retrouve aussi dans un autre texte de l'ouvrage Le cas Avignon, de Claude Evenot, qui dit « L'ennemi du théâtre, c'est toujours le même, le fasciste, l'homme du ressentiment ». Il y a aussi une attaque esthétique, donc ceux qui dénigrent la programmation prendraient un théâtre poussiéreux et patrimonial et auraient une haine réactionnaire de l'expérimentation. Ils sont aussi accusés d'anti-intellectualisme. Donc voilà pour les critiques de ceux qui dénoncent la programmation. Et alors, ceux qui dénoncent la programmation, qu'est-ce qu'ils lui reprochent ? Une modernité qui cache son vide sous le renouvellement des formes, un art officiel qui s'offre un peu de scandale avec beaucoup de subventions. Et donc là, effectivement, on retrouve la rhétorique dont je vous parlais hier de Maurice Druon et de Valéry Giscard d'Estaing, enfin, ministre Valéry Giscard d'Estaing, hein, donc attaque de ceux qui manient la sébile et le cocktail Molotov. Autre critique validiste et homophobe, autisme et onanisme triomphant. Et puis il y a d'autres critiques qui essayent de réorienter le débat, mais c'est pas évident. Typiquement Jean-Pierre Leonardini qui dénonce un faux avant-gardisme de promoteur à la petite semaine, de portes ouvertes défoncées de longue date, d'un menteur d'eau tiède à tous les étages. Et également l'autocélébration maquillée en violence dénonciatrice. Voilà, donc l'ambiance. Hein. Comme quoi, ce n'était pas forcément plus détendu à l'époque. Mais par contre, on était entre nous. Voilà, je dirais, c'était pas, même si évidemment certains étaient accusés d'être d'extrême droite en tenant les propos qu'ils tenaient, c'était pas des personnes d'extrême droite, et ça restait des personnes qui aimaient la culture, qui aimaient l'art. Donc on débattait entre gens de bonne compagnie, si je puis dire, au sens où en tout cas on débattait entre personnes qui voulaient défendre un certain type de culture subventionnée et pas détruire la culture subventionnée. Mais je vais m'arrêter sur cette dernière citation, l'autocélébration maquillée en violence dénonciatrice. De fait, ce qui est extrêmement frappant, en tout cas ce qui l'a été pour moi, en relisant un peu tout le détail de ces controverses un peu plus de 20 ans après, c'est l'angle mort total de la question de comment les violences, comment la sexualité est représentée dans les œuvres. Donc, parce que, et évidemment, qu'est-ce qui fait qu'on voit, j'ai pas eu la lumière toute seule, hein, c'est le nouveau cadrage apporté par le mouvement MeToo, mais qui est aussi, en fait, une réflexion esthétique. Par exemple, moi je dis souvent, la question de l'inceste, c'est une question esthétique. Parce que c'est une attaque qui est faite au langage, parce que c'est une attaque qui est faite aux limites entre les générations, mais parce que les violences sexuelles, ça induit aussi un floutage des limites temporelles, hein, la mémoire traumatique, elle floute totalement le rapport au temps. Donc c'est des questions de perception, c'est des questions de rapport de pouvoir, c'est des questions de représentation aussi, donc ce sont des questions esthétiques. Et les violences excitées sexuelles, ce sont des attaques faites au langage. C'est jamais seulement des actes physiques de violence, c'est aussi des attaques faites au langage. Et c'est pas pour rien, Christine Angot, c'est pas pour rien, Neige Sinon. Si vous regardez le travail sur la langue qui est fait par ces artistes, et ça a aussi été d'ailleurs travaillé par des psychologues qui travaillent avec les victimes de violences excitées sexuelles, très souvent, les personnes victimes d'inceste ont développé un autre rapport au langage. Parce qu'en fait, il y a un besoin de faire taire la silenciation. On peut dire de faire taire la silenciation. En fait, les violences, elles sont toujours recouvertes de silence, d'euphémisation et de déformation. Quand on dit ça va être un petit jeu entre nous, ça va être des caresses, alors qu'il s'agit d'actes de violence sexuelle. Donc, en fait, tout le rapport au langage est vicié, d'où qui s'en sortent, et qui beaucoup s'en sortent aussi par l'art, vont s'en sortir par un travail sur le langage et sur la représentation. Il y a par ailleurs un spectacle, il y a deux spectacles extraordinaires de ce point de vue-là sur la question de l'inceste, qui sont Purgatorio de Romeo Castellucci et Les Temps de Gisèle Vienne. Tout ça pour dire que ça n'aboutit pas forcément à des formes médiocres, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et le fait d'en parler d'une façon informée et d'une façon qui n'érotise plus la violence. Puisqu'en fait, c'est aussi ça, l'angle mort et l'angle de la préparation en 2005, c'est qu'en fait, on parle d'œuvres. Moi, j'y étais à Avignon en 2005, je le reconnais maintenant, hein, j'adorais Yafam. J'ai adoré Je suis sans et Histoire des larmes, et je n'ai pas vu à l'époque, parce que j'avais été conditionnée à ne pas voir, que en fait, ce qu'on me servait comme de la liberté sexuelle, de la liberté scénique, etc., c'était quand même aussi un hellgaze, avant même de savoir hein, ce chantage sexuel de Saxon Solo et toutes ces accusations qui ont été quand même suffisamment corroborées pour aboutir à une condamnation. En fait, ça se voit. Et ça aussi, c'est un autre rapport hein, de ces dernières années, c'est qu'il y a un continuum des violences, mais il y a aussi un continuum entre les processus de création et les représentations, en fait. Ça a l'air, là aussi, hein, l'affaire Godrèche-Jacot et l'affaire aussi, je vous invite à lire le livre de Anouk Grinder sur sa relation avec Bertrand Blier, parce qu'en fait, on le voit très très bien le continuum entre ce qui est représenté à l'écran et ce qui et les angles morts radicaux. Enfin, bon, je ne vais pas développer là l'analyse des œuvres, mais l'articulation entre ça, des processus de création extrêmement violents, et puis en l'occurrence, ben, les violences conjugales. Donc, les accusations qui sont faites au mouvement féministe antiraciste de vouloir imposer de nouveaux interdits esthétiques et de nouvelles règles de bienséance, ça m'amène à proposer un autre cadrage. Est-ce que le sujet, c'est pas d'interdire la représentation de la nudité, du sexe et de la violence? Évidemment pas, mais plutôt de questionner la façon dont elles sont représentées. Qu'est-ce que ces représentations, elles perpétuent, ou qu'est-ce qu'elles transforment à l'inverse? Je ne sais pas si combien de temps.
Encore un peu de temps.
Encore un peu de temps. Ok, bon, très bien. Donc du coup, je reviens un petit peu à qu'est-ce qui a changé depuis Avignon 2005. Bah, clairement, donc il y a un effet après MeToo et il y a un dépassement du cadrage des controverses. Et d'ailleurs, cette évolution, elle est aussi sensible chez certains artistes. Je parlais de Gisèle Vienne. Son travail, il a évolué et sa parole aussi. Et, je vous renvoie notamment à un entretien qu'elle a donné dans la revue Trois Couleurs en 2022, qui est un entretien croisé avec Vincent Leport, et dans lequel elle dit notamment « Rendre la violence mystérieuse, c'est aussi naturaliser et invisibiliser les rapports de domination qui nous poussent à intérioriser l'ordre en place. » Et donc, tout l'entretien, parce que l'autre personne est beaucoup plus fascinée par la violence, il y a cette idée, dans les croyances limitantes, contre, moi je fais pas mal de formations sur les ESS dans le secteur des arts vivants, et vraiment c'est une croyance limitante qui est très forte pour les pédagogues, donc dans les écoles d'art, qui est forte aussi pour les artistes et pour les programmatrices, cette idée que si on renonce même pas que à la violence sexuelle, hein, mais à des formes de violence ou un petit peu de maltraitance dans les processus de création, il y a vraiment cette croyance qu'il faut de la souffrance et de la violence pour aboutir au génie, pour aboutir à la production d'une grande œuvre. Alors, il y a des choses qui sont incompréhensibles. Moi, j'ai été sportive de haut niveau, j'ai fait de la gymnastique. C'est sûr qu'en fait, c'est pas que dans la bienveillance du corps qu'on arrive à obtenir de la violence. Notamment pour ce qui est de la danse, du cirque, on a sans doute l'occasion d'en parler, c'est certain qu'il y a quelque chose de l'ordre du sur-effort et de pousser à bout son corps. Mais déjà, c'est pas la même chose quand on le fait par choix, quand on se pose la question de son propre consentement à la souffrance. Là, je vous renvoie par exemple à toutes les prises de parole de plein de sportifs depuis un certain temps, mais notamment de Simone Biles, la gymnaste, qui a ouvert une grande conversation sur ces questions-là. Et après, il y a la question du discernement entre ce qui est effectivement une extrémisation de l'intensité de l'effort demandé au corps, ou que ce soit pour la danse et le cirque ou pour la musique dans notre registre. Il faut énormément travailler, ça fait mal, on peut avoir des capsulites, on peut avoir des douleurs au corps quand on est violoniste, soliste, et après on n'a plus de travail. Je parle de ça parce que j'ai une amie qui traverse ça en ce moment, et c'est sûr que c'est pas facile, mais ça, c'est une chose, et autre chose, c'est la question des rapports de pouvoir, et la question, encore une fois, du consentement, de l'autoconsentement. Hier on parlait d'autocensure, il y a aussi la question de l'autoconsentement en fait. Donc cette conversation-là, elle commence à s'ouvrir. L'autre chose, je reviens sur la question du continuum, parce que j'ai parlé de Julie Gaudrel, donc ça c'est 2023-2024, mais il faut quand même rendre justice. S'agissant du MeToo théâtre, en fait, cette question-là, elle a été ouverte dès 2016 aux prémices du mouvement MeToo théâtre, qui a commencé, vous le savez peut-être, à la mousson d'été, parce qu'il y a eu des accusations de violences sexuelles commises dans le contexte de la mousson d'été. Mais ce qui est intéressant, c'est que le premier texte qui est paru, c'est un texte qui ne peut pas dire grand-chose sur ce sujet-là parce que c'était une procédure judiciaire en cours, mais qui du coup disait, je vous cite, il ne faisait pas bon d'être une femme à la mousson cette année. Et notamment, donc, elle portait sur l'accumulation dans les représentations de spectacles, enfin de textes qui représentaient des viols, des agressions sexuelles, des familles en position de victime, alors que ce n'était pas officiellement nécessairement le sujet de l'œuvre, c'était vraiment un jalon d'intrigue. C'était une matière à rebondissement. Et puis, ça s'appuyait aussi, encore une fois, sur un male gaze, et puis sur des représentations stéréotypées qui fixaient un peu les personnages féminins dans des positions de victimes. Donc, elles disent, et je peux le dire maintenant, parce que c'est notamment un texte qui a été écrit par l'autrice Béatrice Bienville, sur le personnage féminin, la plupart étant en position de victime ou de soumission, qui ont été blessés, bien que le personnage féminin échappait à ça, être cantonné à des rôles secondaires, de peu d'épaisseur, dans les clichés habituels de femmes hystériques ou soumises. Et à côté, nous n'avions pas de personnages féminins puissants, à des postes importants, avec des préoccupations qui n'ont rien à voir avec les hommes. Nous n'avions pas de figure forte de référence en contrepoint. À tel point que, à force de la ressentir dans leur chair, toute cette violence fictionnelle, à se sentir mal, nous avons commencé à ne pas nous sentir les bienvenus en tant que femmes dans ce festival, à percevoir l'homme comme un danger potentiel. Nous en avons présenté assez sombrement entre nous de la génération de violeurs que pouvait faire naître un tel festival. Mais nous avions plus le cœur à pleurer qu'à rire, tant c'est violent de se prendre ainsi, en ne s'y attendant guère, une telle succession de représentations violentes des femmes, violemment clichées et violentées. Donc, c'est ce texte qui, à mon sens, c'est pas le seul, hein, mais amorce vraiment ce changement de paradigme. Donc la question, c'est plus est-ce qu'on ne peut pas représenter la violence, c'est qu'est-ce que ça fait notre manière de la représenter. qu'est-ce que ça met en lumière, qu'est-ce que ça invisibilise. Et ça vient questionner les représentations, ça vient questionner aussi le processus de création. Et sur ça, bien sûr qu'il y a aussi une dimension de conflit générationnel, mais pas que, parce qu'il y a des jeunes générations qui incarnent le monde ancien de ce point de vue-là, et il y a des personnes, des générations plus de 60 ans, qui, en tout cas, peuvent avoir forcé une remise en question, en tout cas dans le discours. Et je vous cite un post de Jacques Lifshine à l'occasion de l'affaire Loupa. Alors, parce qu'il y a la question des violences sexuelles, mais il y a quand même aussi la question, bien sûr, hein, du harcèlement moral, des violences au travail, qui sont aussi un autre sujet qui a émergé, parce qu'en fait, c'est le même sujet. C'est le même sujet. C'est la question des rapports de pouvoir et de est-ce qu'on considère que c'est art first, people second, ou l'inverse. Donc, je vous cite Lifshine. Dans cette histoire de la comédie de Genève, je ferme grave ma gueule. Pourquoi ? Parce que je suis de la génération de Loupa, 80 ans, et que pour nous, la bienveillance n'a aucun sens. Nous nous mettons au service d'un spectacle totalement. Les horaires n'existent pas. Le sacrifice doit être total. L'accouchement d'un spectacle est toujours d'une violence extrême. Et comme seul compte la fin, nous sommes d'une intolérance totale, d'une intransigeance absolue. Nous ne respectons plus rien pour parvenir à ce que nous cherchons. Nous ne comprenons pas que tout le monde ne soit pas comme nous, prêt à tout donner, à sacrifier sa vie. On va laisser 5 minutes de silence pour qu'on mette un petit peu tout ça. Ce que ça a pu vouloir dire pour ses collaboratrices tout au long de sa carrière. Donc, depuis les années 2010, il n'y a plus vraiment de controverse interne au champ théâtral qui porte directement sur les représentations du sexe, de la nudité, de la violence, comme ça a été le cas en 2005. Il y a quand même eu des petites controverses, mais qui vont venir justement témoigner un peu du dépassement de cadrage. 2018, c'est désormais Olivier Pic, qui est directeur du Festival d'Avignon, et il consacre donc son édition aux questions de genre. Ou du moins, c'est ce qu'il pense faire, mais il est pris à partie, alors, au sein de la programmation elle-même, dans un peu un espace de contestation, extension du cadre de ce qu'on appelle genre, qui est le feuilleton théâtral qui, cette année-là, a été confié à David Bobet, et qui s'appelait « Mesdames, Messieurs et le reste du monde », et où on a notamment pu entendre Béatrice Dalle et Virginie Despentes, donc, et ce qui a donné après lieu à tous les spectacles que vous avez vus entre elles. Il y avait Rebecca Chaillon, il y avait Yvon Chachan, et il y avait aussi Carole Thibault, et qui, donc un des jours où elle était présente, a prononcé un discours virulent et qui est devenu viral, qui dénonçait justement un festival qui fait genre pour mieux masquer son antiféminisme. Donc là, on voit que le conflit portait non plus... il portait sur les questions de genre, mais c'était un peu un conflit interne entre les revendications féministes, les revendications LGBTQIA+, et queer, et qui se sentaient mises à l'écart de la façon d'interroger le genre qu'avait Olivier Pic. Et ce qui, de fait, hein, est des conflits, ça renvoie à des conflits qui sont internes au milieu queer, féministe, militant, LGBT. Et maintenant, on pourrait rajouter aussi, il y a des tensions très fortes sur l'intégration des personnes trans dans les combats féministes. Donc, ça renvoie, là encore une fois, à des conflits internes, là plus au champ artistique, mais au champ militant woke. Et autre exemple, 2023, il y a un petit parfum de scandale qui entoure La mariée et Bonne nuit Cendrillon, donc le premier de la trilogie de Caroline Arlinki. Mais la petite controverse, elle porte précisément sur la question du consentement et sur les choix de représentation d'un spectacle qui dénonce, de toute évidence, hein, les violences sexuelles. Un spectacle où, a priori, on peut se dire que la question du consentement, elle est évidente, puisque c'est l'artiste choisit la méthode en scène, qui est aussi la performeuse qui choisit de se faire imposer des actes sexuels alors qu'elle est inconsciente, mais qui l'explique au public avant. Donc, a priori, elle a consenti. Alors, on était avant le procès Pénicaud. Je pense que la réception de ce spectacle-là qui va être rejouée dans le cadre de la trilogie, sera assez intéressante, si du moins on garde la mémoire, parce que moi ce qui me fascine sur les affaires de violence sexuelle, c'est à quel point on oublie extrêmement vite. On a un petit peu moins de procès médicaux que les autres, mais on les oublie vite. Et si on les oublie pas, ça va venir un peu raviver le questionnement esthétique que porte cette trilogie, dont on pourrait parler, parce que moi je trouve que c'est un bon exemple en fait d'un projet intellectuel post-MeToo, de toute évidence, mais avec des outils esthétiques qui restent, à mon sens, un peu trop pré-MeToo et pas, pas au sens où ça érotiserait la violence, mais plutôt au sens où ça va nudité, voire des formes de un peu de brutalité vis-à-vis de son propre corps, puisque là, c'est en même temps, c'est la performance qui se fait à elle-même, à mon sens, viennent valider c'est pas du tout un male gaze, mais c'est pas un love gaze. Dépend, t'as eu cette formule d'opposé, le male gaze et le love gaze. Ben, clairement, on n'est pas dans un love gaze. Voilà. Et dans un auto love gaze. Ce qui est aussi, hein, mais encore une fois, c'est aussi la question de l'interaction d'une œuvre à l'autre, de la pluralité, de la pluralisation, en fait, des modèles de représentation de ces questionnements-là, qui est un peu dont on est encore un peu en boucle. Donc ce recadrage sur et ce questionnement des outils, ça porte sur les outils de représentation. On assiste aussi à une montée de la réflexion sur la nécessité de fabriquer des nouveaux outils pour cadrer le processus de création. Et encore une fois, on retrouve un peu cette dialectique entre est-ce qu'on le voit juste comme une nouvelle contrainte ou comme une nouvelle liberté de créer. Et je prendrai juste un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Rachel Zekri, qui est coordinatrice d'intimité, et qui d'ailleurs avait un projet de recherche-création. Elle nous avait sollicité, Iris Bray et moi, et elle n'a pas eu le contrat doctoral de Sacre. Je le dis partout, j'ai l'espace de le dire, parce que je trouve que c'est quand même assez signifiant. Et en fait, elle propose de ne pas appeler ça coordination d'intimité, parce que quand on appelle ça coordination d'intimité, c'est un peu comme toutes ces chartes, tous ces trucs que en fait, de plus en plus d'institutions développent parce qu'elles y sont contraintes et forcées, de un, et de deux, parce qu'elles veulent prévenir un risque juridique. Elles ne veulent pas prévenir des violences, elles veulent prévenir un risque juridique. Et ce n'est pas du tout la même posture. Donc c'est vécu comme une contrainte. Je l'ai dit, ce n'est pas des programmatoristes ou des directeurs d'institutions que je vais apprendre qu'on vit sous contrainte perpétuellement, quand on dirige des lieux, etc. Mais c'est perçu comme une contrainte en plus. Alors, si on appelle ça la chorégraphie d'intimité, ben, ça change tout. Parce qu'en fait, on ne se dit plus que c'est une contrainte externe qui va venir limiter la liberté de création. Et ce que ça vient interroger, c'est cette autre croyance limitante qu'on ne produit pas de grandes œuvres si on est dans la bien-traitance. Je finis là-dessus. Pour moi, le sujet, c'est pas les bien-séances, c'est la bien-traitance. Et c'est arrêter de croire que la bien-traitance, que souffrir serait la condition nécessaire pour créer des œuvres de génie. Et puis, il y a quand même aussi, bien sûr, qui souffre et qui récolte les fruits de la souffrance. Parce que dans la citation du film tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'il ne nomme pas, c'est que lui, il a une gratification symbolique, économique, etc., de sa souffrance. Non seulement c'est lui qui la décide, de souffrir ou pas, mais c'est lui qui va en récolter les fruits. Alors que ces techniciens, quand même vraiment moins.